Rebonjour dans cet matin très froid. Alors, merci d'être là. On a le grand plaisir de voir aussi Sylvie Lindeberg, qui est historien, qui va nous parler des rapports entre les... Est-ce qu'il y a des retours de micro, non? Allô? Oui, ça marche. Des rapports entre le cinéma et l'histoire. Et comme d'habitude, on a un programme presque trop chargé. Alors, on va essayer de parler de plusieurs choses. On va parler de trois films, j'espère. Et le premier va être un film que j'ai fait il y a exactement 30 ans, Berlin-Jérusalem, que je vais parler tout à l'heure. Après, on va parler des films que j'ai fait sur le livre qui était écrit par Jérôme Clément, Plus tard, tu comprendras, avec Jean Moreau, et aussi le fonctionnement de transmission par les non-dits, c'est-à-dire que c'est pas comment on transmet la mémoire par les non-dits, un exercice assez compliqué pour le cinéma. Et j'espère qu'on va avoir le temps de parler de Kedma, un film que je tournais en Israël, qui était présenté à Cannes en 2002. Oui. Alors, c'est un programme très chargé. Je vais parler aussi d'autres sujets qui m'intéressent, et surtout, comme on parle de Berlin-Jérusalem, du fonctionnement des communautés, c'est-à-dire les communautés d'intellectuels, qui dialogue, qu'il y a des textes écrits entre eux, qui est un phénomène qui a assez disparu malheureusement aujourd'hui. Aujourd'hui, dans l'univers de l'individualisme, accentué par le capitalisme, chaque individu avec son projet, à son ego, etc., et le dialogue entre des écrivains, philosophes, historien, etc., elle est très diminuée. Alors, on va parler de Karl Kraus, on va parler de tout cet univers qui touche le sujet qu'on a évoqué la semaine dernière, que le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, qu'on a parlé la semaine dernière. Alors, on a beaucoup de thématiques. Et Sylvie, peut-être toi, tu as envie de dire quelques mots sur Berlin-Jérusalem et ton interprétation, lecture de ce projet.
Oui, bonjour à tous. Alors, moi, je voudrais d'abord dire que... Donc, je remercie Amos de m'avoir invité à l'accompagner dans ce... Bah oui, mais qui puis-je ? J'ai rien dans les mains. Est-ce que vous m'entendez désormais ? Voilà. Donc, Amos m'a invité à l'accompagner pour cette leçon consacré aux relations entre cinéma et histoire, et j'ai accepté avec plaisir, bien que je ne sois spécialiste ni de l'œuvre d'Amos Gitai, ni de l'histoire du Moyen-Orient, mais finalement, au fond, parce que l'œuvre, les films d'Amos Gitai, j'ai envie de dire, intéressent l'historienne que je suis à différents titres. D'abord parce que, à mes yeux, Amos Gitai... notamment dans son œuvre documentaire, met en place une démarche qui est assez proche de la micro-histoire, qui m'est chère. Je la résumerai brièvement. C'est au fond de partir d'un petit objet bien circonstancié, porteur de sens, et puis de le déplacer dans le temps et dans l'espace en jouant des jeux d'échelle, en variant aussi les focales. Et c'est ces petits objets, une maison, une boîte d'ananas, qui lui permet comme ça d'écrire la géométrie du conflit israélo-palestinien, ou bien encore précisément ce ces perversions du capitalisme transnational. Et d'une certaine manière, la démarche d'Amos Gitai, particulièrement dans le documentaire, et on va passer ensuite à la fiction, répond finalement au vœu de Walter Benjamin quand il dit qu'il faut partir d'un petit objet singulier pour essayer d'éclairer ce qu'il appelle le cristal de l'événement total. Et d'une certaine manière, c'est aussi ce que fait à mes yeux le cinéma d'Amos Gitai. Le deuxième point, et j'espère qu'on aura le temps d'en reparler, c'est que le cinéma d'Amos engage de manière très profonde la question du temps. Alors à la fois la question de l'articulation entre le passé, le présent et le futur qu'Amos conjugue de manière très originale, et puis aussi évidemment toute la question de la durée du temps historique, hein, sédimenté, mais aussi la durée du temps cinématographique à travers l'usage de ces plans séquences, mais également la manière de déployer ses œuvres en série. Je trouve qu'un film, par exemple, comme House, est vraiment une série qui expose un lieu dans le temps et qui, à son tour, est une sorte de lieu de mémoire portatif du conflit israélo-palestinien. Donc voilà ce qui m'intéressait notamment dans le cinéma de Gitai quand il m'a contacté. Et puis, ensuite, nous avons dialogué. Amos a choisi, m'a demandé qu'on parle de son film Kedma. Et j'ai eu l'occasion, comme ça, d'appréhender la démarche d'Amos Gitai qui, et on va retrouver ça peut-être si on a le temps de parler de Kedma, puisqu'on était aussi là pour parler de Kedma, de construire et de déconstruire et d'avancer un petit peu comme ça, en effaçant les étapes intermédiaires. Donc, j'espère qu'on parlera de Kedma, puisqu'on avait choisi de parler de Kedma. Et pour Berlin-Jérusalem, je ne sais pas quel extrait tu as choisi, donc il est difficile de l'introduire. Mais c'est un film, en tout cas, que je trouve fascinant parce qu'il croise comme ça des trajectoires, hein, trajectoires de la poétesse expressionniste allemande Else Lasker-Schüller et de cette juive russe Mania... ça y est, j'ai... Voilà, qui a fondé les premiers kibbutz. Et tout le film est construit, et j'espère qu'on va le voir dans cet extrait-là, finalement, entre la confrontation de deux espaces, hein, l'espace de Berlin, la ville, ses cafés enfumés, mais aussi cette, je dirais, toute cette esthétique expressionniste, et puis, au contraire, hein, la force des paysages presque architecturés par la lumière pour le versant, donc, consacré à la Palestine, jusqu'au moment où finalement ces deux trajectoires se rencontrent avec la, je dirais presque la projection de ce personnage encore porteur de l'esthétique de Berlin, la poétesse qui arrive à Jérusalem. Donc c'est cet extrait que tu vas montrer, c'est non,
non peux, je vais vous raconter tout.
Puisque je vais le découvrir avec vous.
Parce que effectivement, je vais partager avec vous comment je prépare les conférences. C'est-à-dire, j'ai des. D'ailleurs, c'est pas très loin de la façon que je prépare le film. Et les gens comme Jérôme, qui ici connaît un peu mon méthode, c'est-à-dire, j'ai des idées, je simule des idées avant, mais après, il faut que je promène avec cette idée et dans le sens un peu talmudiste, et je fais réinterprétation de l'idée initiale. Alors, je ramasse des bouts de papier sur les textes de Karl Kraus, Le dernier jour de l'humanité, The Last Days of Mankind, qui touche la même époque d'Else Lasker-Schüller. Et finalement, j'ai envie de partager mes réflexions avec vous d'une façon organique, c'est-à-dire, ce n'est pas une. Chose préméditée, précise et lecture des textes que je préparais, mais ça travaille. C'est vrai que ça fait Alain Schnapp qu'il va faire avec moi dans des semaines de discussions sur la mythologie et le cinéma. Et il est adorable parce qu'on dialogue depuis déjà plus qu'un moment. ils comprennent un peu qu'il y a des modifications que je fais, toujours en hommage à notre André Breton et son texte sur les manifestes sur le surréalisme, c'est-à-dire l'élément de hasard aussi, le raconte hasardeux dans les préparations. Alors, c'est vrai que ce n'est pas une méthode académique et classique, mais moi, je trouve que ça communique mieux avec cette présentation. Bref, alors Berlin-Jérusalem. Berlin-Jérusalem raconte l'écrasement des destins de deux femmes. Elsa Lasker-Schiller, un grand poétesse expressionniste allemand, née à Wuppertal, d'ailleurs, la même ville que Pina Bausch, qui était la ville de Pina Bausch. Et d'ailleurs, les scènes d'ouverture qu'on n'a pas le temps de regarder aujourd'hui, et c'est Pina Bausch qui m'a fait le grand plaisir de faire la chorégraphie de la scène d'ouverture de Berlin-Jérusalem, qui est une sorte de promenade entre des séries de tableaux vivants de George Grotz, le pilier de la société, que vous pouvez voir dans les Neue Galerie à Berlin, dans laquelle George Grotz présente les paramètres principaux de la société allemande avant la montée de Hitler au pouvoir, mais déjà il simule le rapport entre les nazis, les militaires, les banquiers et l'Église. Tout est Pina Bausch, avec ce groupe de danseurs, elle a fait une chorégraphie, des séries de tableaux vivants de Berlin-Jérusalem, qui était filmé par Henri Alkan, qui, comme vous savez, Henri Alkan, c'était le directeur de photo qui a travaillé avec, qui a fait La Belle et la Bête, qui a fait avec René Clément, il a fait Les Batailles des Rails, il a travaillé avec Lossi, Monsieur Klein, il a travaillé avec Wim Wenders, Les Ailes de Désir. Il m'a fait le grand plaisir d'être le chef de photo, le directeur de photo, avec lequel j'ai fait mes quatre premiers films de fiction. Avec Alain Schnapp, on va parler des premiers films de fiction, Esther, sur l'épisode biblique, qui était aussi tourné par Henri Alkan. Alors, autour de ma carrière, comme je n'ai jamais fait une heure d'école de cinéma, j'ai appris des gens géniaux comme Henri Alkan, ou Pina Bausch, ou Lisa Kreutzer, ou des autres, pour que j'apprenne. Et j'ai appris beaucoup de choses des gens qui travaillaient dans mes films. Et alors, j'ai devenu cinéaste d'une façon organique, presque d'une façon que nous, on crée ce dialogue. Bref, alors, Berlin-Jérusalem, Elsa Lasker-Schiller, le film fait un croisement entre des événements qui passent à Berlin et des événements qui passent en Palestine. Mania Vilbushevich Shohat, la femme qui a créé le kibbutz en 1905, à côté du lac de Tiberia, qui était radical socialiste à la Russie, qui a fait même attentat sur le ministre intérieur des Arts. Elle part en Palestine et elle crée le premier kibbutzim. Le premier kibbutzim, c'était un groupe de 5 à 7 personnes, de majorité femmes. Et je vais faire un petit, avec la permission de Sylvie, un petit pause historique, c'est-à-dire la première immigration contemporaine en Palestine, en Israël, fait en 1880. Après les vagues de pogroms qui a tous les Russies et l'Europe de l'Est en 1880. Et cette immigration installe par l'aide d'Edmond de Rothschild dans des séries de sites, mais ils ne sont pas encore un projet social, alors les ouvriers, ils sont palestiniens. La deuxième grande vague d'immigration, qui commence en 1905, après une autre vague de pogroms, et aussi l'échec des premières révolutions russes en 1905. Et d'ailleurs, c'est l'immigration de mes grands-parents maternels. Ils sont venus, c'est les juifs socialistes qui immigraient en 1905. Ils sont arrivés en Palestine, mais l'immigration des juifs de 1880, les premières vagues d'immigration, refuse d'employer les juifs des socialistes, parce qu'il dit, le problème, si on va les employer, ils vont syndicaliser l'ouvrier. Alors, la première vague d'immigration juive de 1880 emploie strictement des ouvriers arabes non syndicalisés, non unionized. Et la deuxième vague d'immigration, de celui-là de 1905, ils sont au chômage. Il y a la famine, il y a les maladies, ils ne trouvent pas de travail. Alors, l'émergence d'idées de kibbutz arrive des nécessités. Ce n'est pas un projet strictement idéologique. C'est-à-dire, ils décident d'autres employés. Alors, cette petite communauté, à côté des lacs de Galilée, avec laquelle il y a le deuxième personnage, que malheureusement, on ne va pas voir cet extrait aujourd'hui, elle crée les premières kibbutz, et les premières kibbutz ont réussi. Ils ont été productifs. C'est-à-dire, il est produit de surplus, comme on dit le terme marxiste. Le surplus ? Merci. Alors, même point de vue économique, ça marche. Et depuis, il y a ce projet de kibbutz qui a aussi créé des égalités hommes-femmes, qui plus tard, il va créer aussi, qui va décider que les enfants doivent être élevés dans la maison à part pour que les femmes ne vont pas avoir strictement le rôle traditionnel de faire la cuisine et produire des enfants, mais qui vont être des temps beaucoup plus libres. Cette idée, qui est pour moi l'idée la plus créative qui a été créée par Israël, c'est le kibbutz. C'est de grandes inventions sociales, parce que ce n'est pas un kolkhoz, c'est volontaire, on peut quitter le kibbutz, il n'y a pas le comité central qui va nous obliger de cultiver la terre. Alors, Manya Shochat, dans ce film-là, Peran Jérusalem, elle crée le kibbutz. Alors, le film construit une histoire croisée qu'avec Henri Alkan et Nourita Viv, qui a fait le operating, on a tourné à le Berlin historique et l'évolution du kibbutz, etc. Et le film va terminer par un plan qu'on ne va pas voir aujourd'hui parce qu'il est très long. Et un grand plan séquence qui va arriver jusqu'au jour d'aujourd'hui, jusqu'au jour que le film est filmé. Et toutes les scènes qu'on a vues, images et sons avant, ils vont exister strictement par les sonorités superimposées sur un plan de Jérusalem d'aujourd'hui. Et, alors, c'était un début de cette recherche que j'ai fait il y a 30 ans. Le film était présenté en compétition au Festival de Venise, en 1989. Et depuis, et cette histoire de comment on peut présenter l'histoire. C'est-à-dire, et je trouve que le cinéma, il fait beaucoup de mal, souvent, aux conceptions historiques. Et la semaine prochaine, on va parler aussi des rapports littérature et cinéma, parce que souvent, il a un apport descriptif, illustratif d'histoire. Il n'engage pas d'interpréter l'histoire. Et pour ne pas faire l'introduction trop longue, je vous propose vraiment de lire le texte de Georgi Lukács, un théoricien marxiste qui a écrit un très bel texte, un texte très important sur les représentations d'histoire et dans les textes littéraires, dans les nouvelles. C'est-à-dire que pour lui, les nouvelles ne doivent jamais avoir un rapport illustratif, didactique aux histoires, mais doivent aller aux paramètres profonds d'histoire et essayer de... C'est-à-dire qu'il refuse la littérature naturaliste, mais il veut la littérature réaliste. Et cette distinction qui est très opposée à toutes les démarches intellectuelles positivistes, mais plutôt dans les traditions hegeliennes et après, effectivement, Frankfurt School, etc., est très intéressante chez George Lucas. Alors, on peut dire que le travail que j'ai fait dans le cinéma, il est plutôt attaché à cette démarche-là, comment on représente un événement historique. Et là, je vais vous montrer un petit extrait de ce film Berlin-Jérusalem qui touche les questions, l'événement de burning of the books par les nazis. Alors, on va voir, grosso modo, trois plans. Un qui est un poème de Elsa Lasker Schiller, qui sont un tissu d'abstraction. Et après, une scène que Elsa Lasker Schiller, jouée par Lisa Kreutzer, qui a fait avec Wim Wenders, Alice in the Cities, Alice dans la ville, une fabuleuse actrice allemande. Elle joue avec Markus Stockhausen, le fils de Karl Heinz, et qu'il joue le pianiste. Et aussi, il faut dire un dernier mot, qu'on va parler aussi la semaine prochaine, c'est-à-dire que le film fait le rapport entre deux langues, la langue allemande et la langue hébreu. Ces deux langues, avec toutes les tensions, tous les contextes historiques de cette tension entre les deux langues, il les présente comme une sorte de dialogue musical linguistique. Alors, on va voir le premier extrait. Merci.
Es ist ein Weinen in der Welt, als ob der liebe Gott gestorben wäre und der bleierne Schatten, der niederfällt, lastet grabesschwer. Das Leben liegt in aller Herzen, wie in Särgen.
Sie je wiederkommen. Warum gehen wir nicht weg? Es ist das Ende der Welt.
Es ist ein Albtraum. Er geht vorbei. Er hat keinen Platz in unserer Welt.
Warten auf mich 100 Schlechte.
Es ist ein Albtraum. Wir dürfen nicht glauben, dass er wahr ist. Wir müssen unsere Menschlichkeit bewahren, inmitten des Grauens. Vielleicht sind wir die letzten Wächter der Anständigkeit in diesem heruntergekommenen Land. Wir müssen als Zeugen bleiben.
Träum weiter, Ludwig. Wach nicht auf.
Bien. Moi, il y a plusieurs choses sur lesquelles j'ai envie de revenir par rapport à ce film. D'abord, la question des utopies. Hein, du côté de la poétesse, il y a cette utopie artistique, hein, cette ville de Jérusalem fantasmée, et par ailleurs, son rapport, au fond, à une langue qu'elle ne connaît pas, mais qu'elle intègre dans ses poèmes, comme Mein Volk, par exemple, hein, cette manière d'embabeler la langue. Et de l'autre côté, une utopie, on ne va pas le voir, hein, parce que je pense que tu n'as pas choisi d'autre extrême, mais d'une utopie qui est plutôt une utopie sociale, politique. L'autre élément, c'est évidemment, et là, il aurait fallu avoir deux séquences pour pouvoir mesurer, hein, vraiment le travail remarquable de construction de ces deux espaces, hein, la Palestine et puis Berlin, avec deux chefs opérateurs. Ça me fait un peu penser aussi au travail de René pour Hiroshima, mon amour, où chaque opérateur travaille avec, sans connaître ce que fait l'autre, avec une pellicule qui lui est propre. Et il y a ces deux univers qui sont construits vraiment visuellement, d'une manière aussi chromatique, qui s'opposent entre aussi le plein de la ville construite et architecturée, de l'autre côté, cette espèce de vide qu'on va retrouver dans le rapport au paysage, qu'on va retrouver dans Kedma, si on en voit un extrait, où finalement ce sont les personnages qui tracent sur ce paysage vide des lignes de fuite, en quelque sorte. Donc ça, c'est cette opposition qui va à un moment... ces lignes qui vont se croiser au moment où le personnage de Else va arriver à Jaffa, on a un plan qui est absolument magnifique, qui est une sorte de traversée de l'obscurité et qui nous emmène jusqu'aux portes Jaffa avec toute une série d'effets de rimes, d'enjambements, à la fois du son et de l'image. Et tout à l'heure, tu parlais de la dernière séquence. Alors, c'est dommage qu'on ne puisse pas la voir parce que c'est vraiment une séquence que je trouve absolument fascinante. Si vous étiez là à la leçon inaugurale, vous avez vu le livre d'Amos, et on a vraiment un immense plan, enfin un très long plan séquence, qui en général un plan séquence nous confronte à une sorte de bloc de temps et d'espace insécable. Et là, au contraire, dans l'espace de ce plan séquence, on va suivre le personnage de Else qui va traverser Jérusalem, et au fur et à mesure qu'elle traverse, on change d'époque et on traverse 50 ans d'histoire. C'est vraiment un plan absolument fascinant, et dans lequel reviennent des sons qui sont d'abord effectivement des dialogues, des musiques qu'on a entendues au préalable dans le film, mais également on va progressivement entendre les sons de la radio qui évoquent la première intifada qui a été déclenchée peu avant le tournage du film. Et ça me fait revenir à ce que je disais tout à l'heure sur cette articulation singulière des temps. Et on voit aussi dans ce plan, finalement, ça me fait penser à ce que dit Chris Marker dans L'Ambassade, le temps, c'est pas une question, nécessairement une question de distance, c'est le passage d'une frontière. Et là, on voit la ville et des vestiges qui renvoient au conflit de 1967, et puis progressivement arriver dans l'arrière-plan, puisque Amos Guitta joue sur les sons, mais aussi beaucoup sur les arrière-plans, des voitures, et tout d'un coup, on bascule dans le temps présent. Et c'est tout ce travail-là, hein, ces glissements, ces déplacements, que je trouve très fascinants dans ce film.
Non, mais c'est vrai que c'était très bien. Le problème que Berlin-Jérusalem, dans quelque façon, c'est un peu difficile de parler des choses que vous n'avez pas vues.
Il faut les montrer, alors.
Oui, peut-être un jour. Parce que c'est un film qu'il faut voir la totalité. C'est-à-dire, le film est divisé en deux parties. C'est-à-dire, il y a des scènes comme celle-là, ou celle des scènes de kibbutz. Ça, c'est la première partie qui fait 90% du film. Et après, il y a les 10 dernières minutes qui ramassent toute cette information. Mais si je vous montre de façon isolée les derniers plans, je crois que vous ne pouvez pas apprécier les fragments que vous avez déjà vu, images et sons ensemble, strictement avec des expériences sonores qui répètent. Et d'ailleurs, vis-à-vis Sylvie, les choses que tu as dit, c'est-à-dire il y a Nourrit Aviv, elle a fait le operating de tous les films. Henri Alkan, il a fait les Lumières de Berlin. Et on était avec Henri Alkan, on a travaillé comme était va être, comme on va parler d'Esther, sur des références picturales. Alors, sur les lumières qui étaient appliquées pour les scènes, par exemple, celui-là d'Elsa Lasker-Schiller, c'est les lumières plutôt expressionnistes. Les lumières expressionnistes, il est linéaire. C'est-à-dire, il y a toujours l'aspect textuel qui est évoqué Sylvie, le textuel, histoire, des couches de mythologie littéraire, et après, il y a toujours le rapport aux formes. Et c'est ça qu'on a parlé plusieurs fois, c'est-à-dire le rapport entre la forme et la narrative, les formes et l'histoire. Et il faut que la narrative ne reste jamais didactique, mais il faut qu'il nous dise quand même quelque chose, quelque chose de très complexe. Alors, les références iconographiques des scènes de Berlin, ils sont des peintures expressionnistes, et des peintures et des photographies, de, par exemple, de Feininger, qui était, la semaine dernière, on a parlé de Bauhaus. Feininger était un grand photographe peintre au Bauhaus, qui travaillait avec, beaucoup avec cette lumière expressionniste. Et les scènes de Mania Shochat, ils sont plutôt social realism, le réalisme socialiste, c'est-à-dire c'est un autre type de lumière. Et le film est fait dialogue alors de deux langues, hébreu et allemand, de deux modes iconographiques. Et il faut dire aussi que pour mettre les choses un peu, encore plus complexes, la beauté des poésies d'Elsa Lasker-Schiller. Elsa Lasker-Schiller a écrit ses poèmes dans le café berlinois, mais elle a appelé la collection de poèmes « Hebräische Balladen », des ballades hébraïques. Et malgré que son attachement aux langues hébraïques, c'était sonore, c'est-à-dire elle ne connaît pas la langue. Elle a adoré les mythologies de David. Elle a imaginé dans le café fumé de Berlin cette sorte de paysage de la Palestine, de Jérusalem, de tous les personnages bibliques. C'est une sorte de fantasme, une sorte déjà d'immigration de cerveau, d'immigration imaginaire qu'elle a transposé sur cette ville qui, à la fin de sa vie, par des circonstances historiques, elle part. D'ailleurs, après cette scène-là, le livre d'Elsa Lasker-Schiller était brûlé par les nazis. C'était un des écrivains qui était. Ce livre était brûlé. Et je vous conseille chaleureusement de lire la poésie d'Elsa Lasker-Schiller. C'est un très, très grand poète. Malheureusement, elle n'est pas très bien. Pas beaucoup de ses poèmes traduits en français. Il y a beaucoup plus en anglais. Et les gens entre vous qui parlent allemand, je vous conseille. Et je peux vous dire au titre personnel que moi, j'avais un mémoire assez hostile à la langue allemande à cause des histoires familiales, mais avec Lisa Kreutzer et la façon qu'elle a exprimé la langue allemande, j'ai compris la beauté de cette langue aussi. Alors il y a toujours un aspect de découvert. Et pour finir avec Berlin-Jérusalem, alors je vous conseille de lire le texte de Karl Kraus, Le dernier jour, The Last Days of Mankind, le dernier jour de l'humanité, qui est une construction assez énorme de vision et de délire sur la fin de l'humanité. Et aussi le très bel texte de Karl Kraus sur Rosa Luxemburg, parce que Rosa Luxemburg, dans les lettres qu'elle écrit depuis la prison bavaroise, elle décrit, elle est torturée, et après elle va être assassinée, tout de suite, en 1919, et jetée dans un des canaux de Berlin. Mais Rosa Luxemburg, d'ailleurs le contemporain d'Elsa Lasker-Schiller, décrit dans son lettre depuis la prison, que Karl Kraus a saisi cette lettre, elle n'écrit pas les sauvageries humaines, elle décrit comment le gardien de cette prison traite un ox, un bouffe, les cruautés humaines vis-à-vis des animaux. Et Karl Kraus prend ce texte comme une sorte de métaphore Effectivement, cette groupe d'intellectuels, de penseurs, de philosophes, d'écrivains, de poètes, de peintres, il y a un rapport avec Kokoschka, avec tout ce tissu, c'est un tissu très créatif qui, comme je dis au départ, manque aujourd'hui. Aujourd'hui, le dialogue entre les disciplines variées est très limité. Il y a chacun avec son parcours, avec son recherche, avec son ego, avec son œuvre artistique. Et cet échange humain, il est nécessaire, il ne peut pas être remplacé par les rapports virtuels. Et la chose que je sais de mon époque de Berkeley, ce n'était pas strictement dans les conférences de Paul Feyerabend ou des dernières de Frankfurt School, mais c'était aussi des cafés de Berkeley, avec des poètes espagnols qui m'ont conseillé qu'il faut lire ce livre-là. Et cet échange-là, je crois qu'il manque beaucoup aujourd'hui, et c'est un problème de notre temps. Là, on va passer sur un autre film. Et c'est un film que Jérôme Clément, qui a écrit le livre « Plus tard, tu comprendras ». Un jour, il m'a proposé de faire la mise en scène de son texte, qui était un challenge très intéressant, parce que dans cette grande puzzle que j'ai construit des films que j'ai fait sur Israël, sur les conflits, sur le Moyen-Orient, sur l'ananas, sur la musique, etc., et j'étais envie de parler de l'histoire de la France, qui est un pays qui m'a accueilli, moi et ma famille, qui m'a accueilli bien. Et cette page douloureuse de la collaboration, d'époque de collaboration des Français avec le régime nazi. Et d'ailleurs, et dans ce sens-là, Jérôme, il m'a donné, on peut dire, le prétexte ou l'occasion de dialoguer avec son texte. Et comme on va parler aussi la semaine prochaine, les dialogues n'étaient pas évidents parce que Jérôme, il a écrit des livres sur les lettres qu'on va voir tout à l'heure, les lettres que son père a écrit à la préfecture en 1941, une attestation disant « Moi, monsieur, je ne connais pas le nom de votre père, Jérôme. » Yves Clément, Arien baptisé, marié avec ma femme, Revon Gornick, juif. Alors, ce n'est pas la grande Deuxième Guerre mondiale avec les chars, avec les fumogènes, avec les... c'est le père avec la mère. Et j'ai compris très bien les sensibilités. Et là, on a la grande occasion de voir l'écrivain des livres ici et le chagrin de Jérôme, comme il a découvert cette lettre après la mort de sa mère. Et qui l'a initié vers cette grande recherche de fouiller dans l'histoire familiale et d'essayer de comprendre cette époque. Après, on avait des dialogues extrêmement créatifs et moi, j'ai proposé d'ajouter des figures qui n'étaient pas dans les livres d'origine de Jérôme. C'est une grande histoire que d'ailleurs, tout l'archive de ce film, bizarrement, est voyagé à Stanford. Et Stanford, ils vont faire un énorme projet de recherche des processus d'évolution d'un texte vers un film et toutes les couches, parce qu'on a décidé de partager avec Stanford le livre de Jérôme, bien sûr, le premier scénario avant que je rentre dans le projet, dans lequel il n'y avait pas Catherine Clément, l'intervention qui était faite par Dan Frank, l'intervention de Marie-Josée Sansem, avec laquelle on a ajouté Catherine Clément et aussi les figures qui représentent la femme de Jérôme, c'est-à-dire tout ce dialogue entre un livre qui est le point de départ et la représentation cinématographique. Alors, je vais vous montrer les premières parties de ce projet. Et vous voyez Jérôme et Catherine au début, et après, on voit aussi Jeanne Moreau, qui représente la mère de Jérôme Clément. Et là, c'est aussi le rapport, quand je parlais verbalement avec Sylvie, le rapport archive et cinéma de fiction. Et là, vous voyez les émissions radio des procès de Klaus Barbie, en 1987. Et un des témoignages qui était trouvé par la personne qui a fait les recherches dans les archives de INA, que Florence Colombani, elle a trouvé cette recherche. Vous voyez, j'expose toujours l'équipe, parce que c'est un travail d'équipe, c'est pas un travail... C'est-à-dire, moi, j'essaye d'aller contre le courant que nous, avec notre projet, etc., et je trouve que les films, ils sont aussi le produit créatif de tout le monde qui contribue à ce film. Alors, on va voir le premier extrait.
Profession, j'étais artisane et maintenant je suis à la retraite. J'habite Lyon.
Est-ce que vous connaissiez l'accusé Claude Barbie avant les faits qui lui sont reprochés?
Non, maître.
Vous n'avez avec lui aucun lien de parenté ou d'alliance, ni avec les parties civiles qui
se... Non, monsieur le président.
Alors, madame,
parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité et rien que la vérité, vous levez la main droite et dites « je le jure ». Merci, madame. Asseyez-vous. Alors, faites votre déposition, madame, nous vous écoutons.
Je vais commencer par le début.
Monsieur l'huissier, s'il vous plaît, approchez le micro du témoin.
Monsieur le Président, j'habitais dans un garni 122 avenue Thiers à Villeurbanne à l'époque. Donc, il y avait des contrôles d'identité souvent. On est venu nous contrôler les papiers la veille et j'ai entendu que la police qui est venue simplement contrôler nos papiers allait contrôler le lendemain Presqu'est-il site où il y avait pas mal de réfugiés israélites. Donc, le lendemain matin, je me suis dit, il vaut mieux avertir les gens qui s'y trouvent, pour qu'ils s'éparpillent, pour ne pas se faire prendre. À ce moment-là, j'avais M. Kaplan qui habitait à côté de chez nous, donc c'était un rabbin. Je suis allée le trouver et je lui ai demandé qu'il veuille bien dire qu'est-il site, comme quoi les gens qui ne reste pas, parce qu'il va y avoir une rafle. Il m'a répondu qu'il n'était pas de service ce jour-là, mais qu'il y avait le rabbin Schoenberg qui serait à la Fédération 12 rue Sainte-Catherine, que je pouvais aller l'avertir lui et qu'il ferait le nécessaire. Ce qui fait que je suis montée rue Sainte-Catherine à la Fédération. Quand je suis montée, j'ai tourné la poignée pour rentrer, c'est facilement ouverte la porte. Face à moi, au fond, j'ai vu, je pense, 3 ou 4 personnes, donc des messieurs, qui étaient habillés en noir. Si ma mémoire est bonne, c'était habillé en cuir noir. Et donc, derrière la porte, il y avait un monsieur automatiquement. Quand j'ai ouvert, il a fermé la porte. Et je ne comprenais pas ce qui m'arrive. Ils m'ont dit « papillon ». Alors j'ai commencé à dire en français « excusez-moi messieurs, je ne comprends pas ». Je suis venue chercher un médecin pour ma mère qui est malade. Alors on m'a re-répété « carte papillon ». Évidemment, il a fallu que je tende ma carte d'identité où il y avait marqué « tampon juif ». Ils ont dit en allemand « ah, noch ein jüdische Kätzchen », ce que signifie d'après ce que je sais « encore un petit chaton juif ». On m'a pris mon sac des mains et on m'a fait rentrer dans une pièce qui se trouvait à gauche, où il y avait déjà beaucoup de gens et qui, dès que je suis rentrée, on me faisait signe d'un air, il se passe quelque chose, sort, mais je ne comprenais toujours pas. Ce qui fait qu'on m'a mis dans la pièce à côté et où il y avait déjà beaucoup de monde. Entre les gens qu'il y avait, il en arrivait. J'avais surtout très, très peur que ma pauvre maman ne vienne pas. Et on était déjà beaucoup. Et au fur et à mesure que le temps passait, il arrivait du monde. Je pense qu'il était déjà assez tard. Et on a commencé à évacuer les hommes. Et on a commencé ensuite par sortir les dames. Alors j'ai tenté ma chance et je me suis dit, ou on va me relâcher quand je le demanderai, ou on me déportera.
D'être sous le joug de ses parents. Voilà. On m'a dit, j'espère que cette fois-ci, tu le recevras gentiment, ce monsieur Veil, car tu vois bien que c'est un homme brave et respecté, qui se rend chaque jour à la synagogue, qui est très pieux et charitable, un bon parti. Quelle barbe! Je J'espère que vous pourrez revenir dimanche, car j'ai quelques difficultés à vivre sans ma promenade dominicale au jardin du Luxembourg. Vous me manquez terriblement. Raymonde. Mon ami.
Et de 8, 8e audience du procès Barbie devant la cour d'assises du Rhône. Aujourd'hui, l'un des épisodes les plus dramatiques de l'histoire de la capitale de la Résistance, la rafle de la rue Sainte-Catherine, le 9 février 1943.
Lyon, 20 mai 1987. Nouvelle journée du procès de Klaus Barbie.
Maître, je vais commencer.
C'est vous qui écoutez la radio?
Oui.
Je vais vous mettre un peu plus fort.
Oui, allez-y.
Monsieur l'huissier, s'il vous plaît, approchez le micro du témoin. De là.
Ça vous intéresse?
Comme ça.
Bien. Monsieur le Président, j'habitais dans un garni 122 avenue Thiers à Villeurbanne à l'époque. Donc, il y avait des contrôles d'identité.
Ok, donc ils s'aiment. Ils s'aiment contre leur famille. Et ils réussissent. Ils réussissent et ils se marient. Vous voyez la photo. Voilà. Voilà. Ils se marient en grande pompe. D'un côté les Bastiens, les Français. De l'autre les Juifs russes, les Corniques. Papa, maman. Son père, sa mère, ses sœurs. Voilà. Lui, je ne sais pas qui c'est, lui. Donc il se marie, donc ça c'est 1937. Il se marie. D'un côté les Bastiens, de l'autre les Gorniques. On a donné ça en 1913, naturalisé en 1925. Donc ça c'est 1925. Les affaires marchent bien. On a une belle voiture, on fait des pique-niques. Maman est en pharmacie. Rencontre mon père, se marie et donne naissance à Tania. Voilà, ça c'est 1939. Tania, baptisée, bien sûr. Ça c'est Tania, Gornick, photo, ça, ça va. Ensuite, les ennuis commencent. 1941, voilà. Le Conseil des ministres, décrétons et regardez comme juif celui ou celle appartenant ou non à une confession quelconque qui est issu d'au moins 3 grands-parents de race juive. La pharmacie, donc elle peut garder la pharmacie, mais son père perd tout. Un administrateur est venu.
Évidemment, il a fallu que je tende ma carte d'identité où il y avait marqué « tampon juif ». Alors, ils ont dit en allemand « Ah, noch ein jüdisches Kätzchen ». Ce que signifie la encore un petit chaton.
Et encore là, ça veut dire qu'elle est avec lui. Qu'est-ce qu'elle fait? Comment elle s'en sort? Elle est avec Tania, ils sont là-bas.
Monsieur, votre rendez-vous, 18h30.
Ah non, c'est pas possible. Je peux pas. Voilà, j'ai pas le temps aujourd'hui.
Ça fait déjà 2 fois, à mon avis.
D'accord, il va être furieux, ça sera. Vous savez quoi? Il a qu'à se plaindre au ministre.
D'accord. Bah, je pense qu'il va le faire.
Eh bien, très bien, formidable.
Je peux y aller?
Oui, vous pouvez y aller, merci.
Merci.
Merci, Marie.
À demain.
À demain. Donc, mais qu'est-ce qu'elle fait, elle, à Paris? Comment elle s'en sort? Avec son bébé. Mon père est à la guerre, comment il se passe? Ses parents à Salviac. Et comment elle s'en sort? Qu'est-ce qu'elle fait?
J'ai donc reconnu une jeune fille qui s'est avérée.
Bonsoir.
Et que j'ai vu son nom maintenant. Oui?
Victor, c'est moi.
Oui.
Tu dînes avec nous ce
non,
soir?
Non, ce soir je dîne avec maman, tu sais.
Ah oui, tu vas lui parler?
Comment ça, je vais lui parler? Oui, je vais lui parler.
Demoiselle.
Quoi?
Écoute, tu es tellement tendue ces derniers temps, je sais pas si tu t'en rends compte. Depuis que tu as commencé, je te trouve très angoissée. Très angoissée.
Loin de chez moi également.
Bon, moi je vais au cinéma avec Nicole, on se voit tout à l'heure.
D'accord.
Que le temps passait, il arrivait du
monde. Au cinéma avec Nicole.
Je pense qu'il était déjà assez tard.
Cinéma avec Nicole.
Et on a commencé à évacuer les hommes. Il en est descendu et j'ai remarqué un monsieur grand avec une petite barbe blanche qui s'est mise vers la porte juste avant de descendre et qui a commencé à faire la prière.
J'ai resté un peu long pour vous montrer, c'est-à-dire, après, il y a toujours l'exercice cinématographique, c'est-à-dire comment on prend cette série d'ingrédients, l'histoire de Jérôme Clément, les lettres, le procès Barbie, les acteurs, le travail Hippolyte Girardot, Jean Moreau, le travail de Caroline Champeltier sur l'image, la construction des sons, etc. C'est toujours un vrai challenge, c'est-à-dire comment on peut travailler sur les questions. Après, on a arrêté avant le dîner dans lequel Jean Moreau et Hippolyte Girardot, elle va éviter de parler de cette lettre. Elle refuse de parler à son fils de cette lettre. Lui, il va essayer de la confronter, mais elle ne veut pas parler de cette lettre, c'est-à-dire comment la transmission d'événements historiques et la chose que je dis au début est faite par les non-dits. Et d'ailleurs, comme j'ai connu les gens de ma famille, la famille de Rivka, des gens qui passaient les camps, en sortant des camps, ils ont été envie de dire rien du tout. C'est-à-dire qu'il y a un principe de façon de transmettre les choses pour l'autre génération. Un, c'est d'être autocratique, hiérarchique. On dit à la prochaine génération, il faut que vous sachiez cette histoire-là, voilà tous les éléments, etc. Et l'autre, qui est un peu plus sophistiqué, mais il n'y a pas d'assurance que la transmission va être effective, on laisse des séries de traces, c'est-à-dire comme les choses qu'on a vues la semaine dernière, mon père, il a laissé des bouts de papier, des photos, peut-être procès chez les nazis, mais il ne m'a jamais dit qu'il faut que je sache, il faut que j'apprenne. Et là, c'est up to you, c'est un choix, passer aux prochaines générations. Est-ce qu'on veut prendre cette série de traces, on essaie de composer cette vase, dans une sorte d'archéologie intellectuel, de recomposer l'événement, ou non, on dit, bon, c'est passé, etc. Alors, Jérôme Clément, il a pris cette série de morceaux de vase, il a dit qu'il va faire un texte. Et en plus, on avait, dans les préparations de films, des questions extrêmement intéressantes, parce qu'il y a des fois qu'on était d'accord ou pas d'accord, mais c'était une grande amitié, et c'est une grande amitié, et de grand respect. Parce que, par exemple, les grands-parents de Jérôme, ses grands-parents maternels, cachaient dans un petit village dans le Lot. Et ils ont été pris par les collaborateurs français, les milices françaises et les SS en avril 1944. Et envoyés à Auschwitz, et 2 semaines plus tard, ils sont partis dans les fumées d'Auschwitz. Alors Jérôme, il a beaucoup insisté que je vais faire avec lui le voyage pour retrouver ce petit hôtel de Lot, de ce village de Lot. Je crois Salviac. Et moi, je lui ai dit, écoute Jérôme, même dans les jours d'aujourd'hui, d'aller à Lot, à Salviac, même les RER, les TGV et l'autoroute ne marchent pas très bien. Pourquoi on doit aller à ce village? On a beaucoup de choses à faire. Il a dit, non, Amos, j'invite que tu vas aller avec moi à ce village. Alors, on a fait, et il avait raison. Pourquoi ? Parce qu'on a fait cette voyage qui n'était pas très facile, mais en arrivant à ce tout petit village de peut-être 200 habitants, avec ce petit hôtel dans le milieu de nowhere, etc., j'ai compris le niveau de la folie nazie. C'est-à-dire, en 1944, l'Allemand nazi a déjà perdu la guerre. C'est de la Russie, le Stalingrad, on est derrière Stalingrad. Et d'aller chercher des vieux juifs qui cachaient dans un tout petit hôtel isolé dans le milieu de nowhere à la Lotte, avec leurs collaborateurs français, j'ai compris les choses. Alors il y a des choses, et cette scène on ne va pas montrer aujourd'hui parce qu'on n'a pas le temps, mais il y a des choses qu'il faut passer l'expérience pour comprendre. Ce n'est même pas l'aspect littéraire et des autres. Et comme on est, comme d'habitude, très short un temps, parce qu'on va essayer de voir un bout de Kedma, je vais quand même montrer une chose qui représente, c'est-à-dire le dernier plan de Plutarque, et qui arrive jusqu'à aujourd'hui, comme souvent à Berlin, dans mes films, c'est-à-dire que, comme vous savez que je suis formé comme architecte, bon, même pour faire un pont, il faut des piliers. Alors il y a toujours les plans de début, et il y a plein de fins, et le reste, c'est une sorte de diagonale ou de cordes suspendues. C'est le reste du film, et toujours le début et la fin. Là, vous avez vu le début. On va voir la fin, et la fin arrive jusqu'à aujourd'hui. On va regarder. Si on peut monter un peu le son. Merci.
Monsieur Bastien, je suis tout à fait désolée de ne pas vous recevoir comme je l'aurais souhaité. On a dû nous déplacer notre bureau ce matin, mais nous serons tranquilles. Voilà, je suis votre rapporteur et j'ai besoin de compléter votre dossier avant de l'envoyer à la commission plénière.
Vous permettez que je vous rappelle le cadre dans lequel s'inscrit cette procédure?
Oui.
Alors, vous savez qu'aucun président de la République n'a accepté la responsabilité de l'État français dans la déportation des Juifs. Et donc...
Ce qui a changé, c'est en fait...
Oui, ce qui a changé, c'était... la situation donc, a changé en 1995 avec le discours de Jacques Chirac pour l'anniversaire de la rafle du Veldiv. Et donc, qui dit responsabilité, dit forcément indemnisation. Et c'est pour cette raison que la commission a été créée en 1999.
Mes grands-parents sont partis de Paris juste avant la rafle du Veldiv.
Oui, je sais, et malheureusement, ils n'ont pas pu s'échapper par la suite. Donc, il était très important de réparer les fautes commises par Vichy et par ses fonctionnaires. Alors, 24 000 dossiers ont déjà été examinés. Alors, je sais, une réparation matérielle, c'est très peu de choses en regard de ce qui s'est passé dans les familles, mais c'est essentiel, symboliquement, que ce soit fait. Voilà, c'est très important et c'est pour cette raison que nous vous avons demandé de venir ici aujourd'hui.
Voilà, je vais être obligée de rentrer dans des détails pour le calcul de votre indemnisation et étant entendu que mon rapport sera envoyé plus tard à la commission qui décidera, après vous avoir entendu, si vous le souhaitez, bien entendu. Ouais. Voilà, d'après les documents fournis, j'ai enquêté en France et en Allemagne pour déterminer la nature et l'étendue des spoliations dont ont été victimes vos grands-parents. J'ai établi un dossier que voici. Voilà. Si vous voulez bien, nous allons commencer par le plus facile, le fonds de commerce. Alors, j'ai réuni la comptabilité des trois dernières années,
voilà,
incluant l'année 1940, dernière année de l'exercice réel de l'activité de votre grand-père.
Alors bien sûr, vous me direz qu'en 1940, l'activité du magasin était très réduite, et vous aurez raison. Hein. Il y avait des difficultés d'approvisionnement, il y avait beaucoup moins de clients, et puis surtout, le magasin était tenu par un juif, donc il était boycotté.
Le magasin a été cédé à un fournisseur de votre grand-père pour une somme de 60 000 francs.
Oui, enfin, cette somme ridicule, c'était le calcul du commissariat aux questions juives.
Oui. Je partirai du chiffre d'affaires réel, donc de 5 millions. Hein, je le préciserai. Vous êtes d'accord? Très bien. Je ferai donc une proposition pour le magasin qui tiendra compte de tous ces éléments. Mais il faudra aussi comptabiliser la rue de Paradis. Vous pouvez me dire combien de pièces avait cet appartement?
Oui, bien sûr. Cet appartement avait 6 pièces.
Très bien. Et savez-vous ce qu'est devenu le mobilier ?
Non.
Bon, il y a de fortes chances que tout cela ait été pris.
L'immeuble est-il en pierre de taille ?
Oui. Il date de 1905.
Très bien. Ce sera facile à calculer, mais je le ferai plus tard.
Oui, alors nous utilisons des forfaits auxquels la commission est obligée de recourir, hein, faute de mieux, parce que c'est très difficile parfois d'estimer les biens spoliés, surtout, vous imaginez, 60 ans après.
Bon, nous avons donc vu le commerce et les propriétés immobilières. Il faudra préciser aussi s'il y avait des bijoux.
Oui, qui eux aussi sont indemnisés, hein, pas de problème.
Nous n'avons absolument aucun document concernant les bijoux.
Si.
Ah ben oui.
Les archives allemandes nous ont envoyé photocopie de la saisie des effets personnels de votre grand-père lors de son arrivée à Drancy. Voilà. Et il avait un peu d'argent sur lui. J'ai là le récépissé qui date du 11 avril 1944. Voilà. Et il indique le dépôt par M. Gornick-Georges, donc d'une somme de 5000 francs, d'un bracelet massif en or, d'une chevalière en or.
Et d'un canif.
Oui.
Je peux garder la photocopie ?
Oui, bien sûr. C'est à vous.
Merci.
Bien sûr, nous comprenons votre émotion, monsieur.
Oui. Mais venons-en aux passeurs.
Aux passeurs, oui. Les passeurs, pardon.
Les passeurs, oui. Quand votre famille est passée dans la zone sud, elle a bien dû utiliser des passeurs.
Oui, bien sûr.
Un passeur, c'est 200 euros. Et deux passeurs font le double.
400.
Donc je... Sur place, votre famille était logée chez l'habitant ?
Non, elle était... Ils habitaient hôtel de l'univers.
Bon, je proposerai aussi d'en tenir compte.
Mais... Il y a aussi les œuvres d'art, monsieur.
Les tableaux russes et les objets de valeur.
Oui, de valeur.
Ceci dit, nous n'avions aucune trace.
Alors, sur cette film, vous avez vu les deux piliers, du début à la fin. Et aussi, parce qu'on est s'enchère des créations artistiques, alors il y a toujours le challenge des plans-séquences. Et de façon dans laquelle les plans-séquences, qui est très compliqué techniquement, ils nous permettent de faire un travail d'interprétation, méditation, pendant qu'on regarde le film. Et on a parlé dans les séances précédentes qu'on n'est pas dans les consommations d'images avec un montage explicatif, mais une autre démarche est cinématographique. On n'est pas dans les émotions hystériques et extérieures, mais plutôt dans les retenues. Et la façon de retenir de cette émotion transmettre des choses. Alors, comme j'ai envie de vous prendre l'attention, alors il y a toujours un enjeu technique, c'est-à-dire moi j'étais envie que les fétiches de Paris et les tours Eiffel, ils se représentent. On était allé chercher dans tous les buildings dans lesquels on peut faire ce plan avec l'image des tours Eiffel qui fait partie intégrale de ce plan séquence. Et dans le musée de l'homme, dans les bureaux là-haut, on a trouvé effectivement un endroit dans lequel il y avait cette fenêtre. Et après, il y a toujours la question de chorégraphie de la scène, aussi de mettre les comédiens dans un état dans lequel ils prennent le temps d'interprétation. Et c'est toujours un travail fascinant qui existe dans tout le film. Et on a vu Kippour, il y a Kadosh, il y a beaucoup des autres, et qu'on va voir aussi dans les trois séances qui restent. Et parce que j'ai promis à Sylvie que je vais vous montrer aussi un extrait de Kedma, alors il ne nous reste pas beaucoup de temps, et on va passer sur un extrait.
Si tu permets, Amos, donc, moi je n'ai pas vu ce film, donc je relève le gant de l'impromptu, mais au moins sur la première séquence, bon, d'abord je trouve très intéressant la manière dont toujours dans tes films tu entres dans le film.
Je t'ai invité ici comme ça tu peux voir mes films.
Oui, voilà. C'est... J'aurais préféré le voir en entier, mais ne serait-ce que l'ouverture. Donc déjà la manière tu entres dans le film et tu fais faire toujours un mouvement au spectateur de déracinement pour le réenraciner dans ton propre univers. Et qui fonctionne beaucoup par la désorientation, que ce soit la désorientation qui travaille aussi avec la bande sonore. Et donc, puisque je découvre moi aussi cette séquence, je vais faire peut-être l'historienne un peu positiviste, mais j'ai été frappée par l'usage que tu fais des séquences filmées du procès Barbie, qui de fait est un procès qui a été filmé intégralement, et c'est un des premiers... puisque ça a été autorisé par la loi Badinter. À ma connaissance, il n'est passé à la télévision que plus tard, hein, puisqu'il est passé par autorisation spéciale par la chaîne Histoire, et d'où, finalement, une interrogation que j'ai sur cette espèce de parasitage des temps, puisque le procès Barbie parvient plutôt par les mots, par les écrits des journalistes, avec finalement le procès Eichmann, qui, lui, est vraiment un procès qui passe, en tout cas, pour l'Israël par la radio et pour les États-Unis effectivement par les images filmées par le documentariste américain Lee Horowitz. Et du coup, j'ai l'impression aussi dans cette séquence, on voit la manière dont tu travailles, tu parasites des événements, tu les reconstruis.
J'aime pas le mot parasite, mais tout le reste, ça va.
Oui, mais c'est ça. J'ai l'impression que le procès Eichmann parasite la vision du procès Eichmann. C'est pas péjoratif comme terme, c'est la manière dont il travaille comme ça en écho et tout d'un coup il s'enchevêtre. Non, la manière dont on reçoit un procès.
Mais c'est vrai aussi que je réserve sur les historiens positivistes, mais ça, c'est un autre sujet.
Et, je peux vous entendre.
Oui, mais un petit dose, pas trop.
Bien que je te taquine un peu, hein, parce que tu me fais des surprises, moi aussi je t'en fais.
alors en parlant effectivement du procès de Barbie, Jérôme, il est arrivé avec la famille chez moi, parce qu'il était envie que je l'explique pourquoi sa mère évitait de parler de cet épisode. Elle n'a pas parlé avec lui. Et j'ai fait une sorte de proposition historique. Alors, Jérôme est né en 1945, mais le film était fait en 2007. Alors, on peut trancher. Je l'ai dit, on va trancher l'histoire au morceau de 20 ans. Alors, je l'ai dit, en 1947, tu as 2 ans, tu es né d'une mère juive, tu étais baptisé. Il était envie de voir pourquoi sa mère l'a baptisé à son naissance. Et moi, je lui ai dit, écoute, Jérôme, si je rentre dans la tête de ta mère, après ce cauchemar de la Deuxième Guerre mondiale, la seule chose qu'il a envie de faire, c'est de sauver cette bébé qui vient d'être né. La religion, ce n'est pas son préoccupation. Alors, il te donne tous les tampons pour te protéger. C'est tout. C'est pas plus compliqué. On passe de 20 années plus tard, en 1967, il y a un événement qui passe très loin, c'est-à-dire la guerre des six jours, en 1967. Et c'est une grande victoire militaire israélienne. Et là, la communauté juive américaine, qui était assez prudent avec l'histoire israélienne, parce qu'il dit, on ne sait pas si c'est gens là-bas, ils sont capables d'être soldats. On va savoir si c'est un projet assez stable, Israël, etc. Après la guerre et d'ailleurs, il y avait un embargo américain jusqu'à 1967 d'armes en Israël. Et c'est la France qui était le fournit des armes. Et comme De Gaulle, il a fait son grand speech après la guerre des six jours. On dit que les Juifs sont déjà arrogants et... C'était quoi le texte? Dominateurs et sûrs d'eux-mêmes? Oui. Et commençait l'embargo français sur l'arme pour Israël. Et Amérique remplaçait Israël. Mais l'impact de cette guerre, il avait un impact sur le positionnement des communautés juives mondiales vis-à-vis de ce territoire, c'est-à-dire cette groupe d'Israéliens partiellement juifs, dans quelque façon. On va parler de ça aussi un autre jour. Et ils ont été efficaces, point de vue militaire. Et le communauté juif américain, et plus tard le communauté juif français, commence à adhérer à ce projet israélien jusqu'au jour d'aujourd'hui, qu'il y a même un dérapage grave dans cette position-là, c'est-à-dire qu'il y a un tampon systématique sur toutes les choses faites par l'institution officielle de la communauté juive, c'est-à-dire sans aucun rapport critique nécessaire. Mais alors ça, 47, 67. On passe encore 20 ans, on est en 1987. 87, la France. Plus que 40 ans après la fin de la guerre, finalement, elle arrive de faire un procès à Klaus Barbie. Et ce procès, quand même, pas mal d'années après la fin de la guerre. Et encore 20 ans plus tard, on fait le film. C'est-à-dire qu'il faut une sorte d'analyse d'histoire. Qui n'est pas affiché sur les films, mais devient une sorte de background, parce qu'avec le groupe de comédiens, on a fait beaucoup de dialogues, on parle d'histoire, c'est-à-dire les démarches avec les comédiens, il ne doit pas être mécanique, à mon avis. Ce n'est pas qu'il doit apprendre les textes par cœur, il faut qu'il rentre dans le rôle, il faut lui donner toutes les larmes et les paramètres, qu'il peut nous donner une performance tellement convaincante qu'il fait Hippolyte, et bien sûr Jean Moreau, et Emmanuel De Vos, Dominique Blanc, les deux autres que vous n'avez pas vus, parce qu'il faut qu'on arrive de mobiliser leur intelligence, et pas seulement d'une façon mécanique, Parce qu'ici, ils sont quand même leur propre talent, que c'est à eux. Mais il faut qu'ils commencent à comprendre le rythme, le mouvement de caméra. Il faut qu'on regarde les plans. Il faut qu'on analyse ensemble. Il n'y a pas le rapport dans lequel certains réalisateurs, ils aiment cacher les moniteurs. Ils disent non, 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 il ne faut pas qu'il va. Il faut qu'il va. Il faut qu'il y ait un dialogue, une analyse pour partager cette expérience de faire le film. Alors, pour faire un dernier... là, on passe à un autre territoire. On était à Berlin. Là, on est passé en France. Et pour finir, on va aller en Israël. On ne va pas avoir le temps de voir toutes les choses que j'ai préparées. Alors, le dernier plan de Kedma, le Kedma, il met en place le narratif palestinien de conflit et le narratif israélien. Et la semaine prochaine, je vais continuer avec Kedma, parce que le Kedma, les deux textes finaux, ils sont aussi d'adaptation de textes littéraires. Le film Kedma, il est fini comme un film assez silencieux d'histoire de... C'est à peu près la même époque. Kedma raconte l'histoire d'un bateau qui est parti d'Europe avec les rescapés de Shoah et sorti des camps. Et je peux imaginer que la seule chose que ces gens-là, ils ont rêvé, c'est, si je peux faire les phrases poétiques, c'est planter un arbre. Ils sont sortis de cauchemar, et ils ont envie de faire rien d'autre. Mais dans les circonstances d'histoire qu'on a vues aussi, comme je parlais de Kippour, c'est-à-dire que l'individu, souvent, il est haché par les grandes forces historiques. Une grande partie de ce groupe de rescapés qui arrive sur ce bateau très fragile, parce qu'à fin de 1947-48, Jérusalem est sur un siège. Siège par les légions arabes, c'est-à-dire Lawrence d'Arabie passe, comme les Britanniques retraitent la Palestine, il passe les grandes citadelles militaires qui contrôlent l'axe routier aux légions arabes formées par les Britanniques et les rescapés qui arrivent sur le bateau qui s'appelle Kedma, ils sont envoyés sur les batailles pour ouvrir la route à Jérusalem. Et il y a encore beaucoup de victimes, c'est-à-dire les gens qui sortent des plus grands cauchemars, ils sont réenvoyés sur cet cauchemar de bataille sur Jérusalem, et surtout la grande bataille de Latrun, qui contrôle, c'est une citadelle qui contrôle l'axe sur Jérusalem. Et je crois qu'on n'a pas le temps, alors je vais montrer strictement Laurent et Janusz. Et ça, ton ami Youssouf. Ça, c'est Youssouf. Alors, peut-être on va avoir un petit morceau de... Tu sais quoi? On va avoir un petit morceau de Youssouf. On va avoir d'abord... Ça, c'est Janusz? Bon, tu connais mieux que moi. Alors, ça, c'est un texte. C'est un texte qui a été écrit par Haïm Azad, qui était le contemporain de... Ben Gurion, ami de Ben Gurion, ce n'est pas un texte que nous on a écrit. C'est un texte que Haïm Azaz il a écrit à peu près de cette époque, que nous on a adapté. C'est encore un grand plan séquence, une sorte de rage contre l'histoire, pas contre le professeur d'histoire, mais contre l'histoire. Et Janusz fait ce texte très très impressionnant aussi, c'est le travail de cet acteur magnifique, un acteur de théâtre yiddish à Tel Aviv, qui est né à Ukraine. Et on va voir ce plan.
C'est Benard. שם בבקשה.
שולם.
שולם. שולם מה?
שולם פיטר סטאר.
פטי גולסקי. תביס. לא, לא, לא. תיקח אותה לשם. שם בבקשה. איך? אוקיי.
קדימה, נערים אותו.
יאן, יאן. חובש! חובש! חובש, מוסה!
תאמין! אין לנו היסטוריה, אין לנו היסטוריה. אני לא יודע איך אומרים בעברית, אבל זאת המשמעות של זה. את ההיסטוריה שלנו, הגויים, עשו אותה למעננו. אבל אנחנו לא רצינו להיות ככה. לא היינו עושים ככה. זה הם שהכריחו אותנו להיות בלי שנרצה. אז בגלל זה אני אומר לכם, שאני נגד! היא לא קיימת עבורי. אני לא מכיר בה. אתם לא יכולים לתאר לעצמכם עד כמה אני נגד, עד כמה אני זורק אותה! תנסו לחשוב מה מוצאים בה, מה הדיכוי, השמצה, הרדיפה, הקדושה, מעונה, הקרבה וקורבנות, זה משעמם. אין לזה שום עניין. אין גבורה או פעולה, אין גיבורים או כובשים. רק קבוצת מסכנים, רדופים ובוכים שכל הזמן מתחננים על חייהם. אני הייתי אוסר על ילדינו את לימוד ההיסטוריה. אתה מבין? הייתי אומר להם, מהרגע שזרקו אותנו מהמדינה שלנו, הפכנו לעם ללא היסטוריה. זהו זה, השיעור נגמר. אחדים חושבים שהאופן שבו שרדנו את סבלנו הוא הגבורה. אבל זה לא מזיז לי, לא מזיז לי מהגבורה הזו. זוהי גבורה של ייאוש. כשאין מוצא, כל אחד יכול להיות גיבור, אם ירצה או לא ירצה. אתה מבין? הסוג הזה של גיבור לא יכול להתאפק. ובמוקדם או במאוחר הוא יציר לכולם, תראו, כל מה שסבלתי בשקט. מי יכול לעשות יותר טוב? אז אתם רואים, אנחנו סובלים, ואנחנו אוהבים את זה. כי בלי זה לא היינו קיימים יותר. זה מה שאני רוצה לומר, לסבול, 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 לסבול. אז העצב עדיף על השמחה. מתלוננים במקום לפעול, בוחרים את העבדות על השחרור, את החלום למציאות, את התקווה לעתיד, את האמונה לשכל הישר, וכך הלאה. זה היום ונורא. זה הסבל שהופך אותנו ליהודים. הוא מוכיח שאנחנו אמיצים וגיבורים יותר מאשר כל עם אחר. אנחנו לא עושים כלום, אנחנו לא שולטים בגורלנו, אבל יש לזה משמעות. כן, המשמעות היא, אתם לא תצליחו לשבור אותנו, אתם לא תצליחו להרוס אותנו. שום כוח על אדמה אינו יכול, כי גם לכוח יש את הגבולות שלו, אבל אין שום כוח לסבל שלנו. וזה מסביר הכל. הגולה, הקדושה המעונה והמשיח. הם שלושתם מאוחדים יחד כדי שאף יהודי לא יכיר את ההצלה, כדי שהם ימשיכו לנדוד מאומה לאומה, ממדינה למדינה, נרדפי שנאה. הגולה, הגולה, כמה שהם אוהלים אותה, כמה שהיא חשובה להם, יותר חשובה מירושלים, יותר חשובה כן. הגולה זאת הפירמידה, עם הקדושה המעונה בבסיס והמשיח בפסגה. והתלמוד כמו ספר המתים, מיליוני אנשים, עם שלם שמחליט לצלול לשיגעון למעלה מ-2,000 שנה. 2,000 שנה. איזה עם מדהים, איזה עם מזעזע, מזעזע עד השיגעון. וכל הטירוף הזה מכוון. כן. האמונה במשיח. מיתוס פשוט, אבל בלי המיתוס הזה הכל היה שונה. הם היו נכנסים לפלסטינה או למקום אחר, זה לא משנה, והם היו מוכרחים לחשוב על התוכניות לעתיד שלהם כדי לגמור עם הסיוט הזה. אתם לא צריכים לעשות כלום. אתם חכו, המשיח יבוא ויסדר הכל. אפילו אסור לעשות שום דבר, כלום. מה זאת אומרת? להישאר בגולה לנצח עד שמישהו בשמיים יחליט לבוא ולהציל אותנו? אני חושב ש... מדינת ישראל אינה יהודית יותר. כבר עכשיו ועוד יותר בעתיד הזמן יגיד לנו. זהו זה. כל אבוי.
Alors, la semaine prochaine, on va parler de littérature, des questions compliquées, des rapports entre les littératures et les cinémas. Je vais parler surtout, mais je risque d'échanger comme d'habitude, des Tzili, d'adaptation des Tzili d'Aaron Appelfeld, qui est un film que j'ai fait en yiddish. Et je crois qu'on va essayer de montrer aussi les dernières parties qu'on n'a pas réussi de voir aujourd'hui, de Kedma. Et je remercie Sylvie d'être là. Et à la semaine prochaine. Merci.